18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ces deux heures d'information, d'analyse, de débat sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. La question du jour, est-ce que la crise s'enlise ou est-ce que l'éclaircie est proche? Tous les leaders syndicaux ont reçu un par un depuis le début de l'après-midi à Matignon, nous y sommes dans un instant dans votre journal. Sébastien Krebs, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'UNSA a été le premier syndicat à rencontrer Édouard Philippe aujourd'hui même, son secrétaire général Laurent Escure répondra à mes questions dans 20 minutes sur Europe 1. Qu'est-ce qui se joue en sous-main? Quelles sont les marges de négociation que possède l'exécutif? Ils sont informés, ce sont les grandes voix, ce sera dès 18h30. Et puis vous le savez, toute cette semaine, on se détend un peu avant Noël. 19h30 tous les soirs, un humoriste pour nous accompagner. Ce soir, Stéphane Guillon, son regard toujours acide sur l'actualité. C'est tout à l'heure, en direct. Posez-lui vos questions, c'est votre grand journal du soir. On s'élance jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
C'est deux conceptions de la protection sociale qui s'affrontent. On n'a pas les mêmes valeurs, si je puis dire.
La CGT qui ne bouge pas, mais quel sera le discours de la CFDT? Retour à la table des négociations, les syndicats défilent à Matignon.
Mais quel est le scénario potentiel de sortie de crise? On tente d'y répondre ce soir.
Emmanuel Macron redit qu'il n'abandonnera pas, mais évoque une amélioration possible sur l'âge pivot.
Baptême du feu pour le nouveau monsieur retraite du gouvernement, Laurent Pietraszewski.
L'ancien DRH du groupe Auchan qui n'a pas laissé que de bons souvenirs aux syndicalistes locaux.
Ça va être cocasse quand même pour lui de se retrouver en face de Laurent Berger. Après avoir joué la chasse aux sorcières sur des élus CFDT. Ça va être compliqué sinon pour lui, hein, s'il n'a pas changé.
Et en attendant, dans les gares, ça se bouscule pour tenter de changer son billet pour Noël.
Dans ce journal également, le combat d'une mère pour conserver la garde de son fils que la justice a décidé de renvoyer chez son père au Japon.
La procédure de destitution contre Donald Trump sur le point d'être votée ce soir.
Et les fans qui se ruent au cinéma pour le final de Star Wars.
Les effets visuels, les effets spéciaux, etc. Ça reste à la hauteur d'un Star Wars.
Un poil déçu quand même.
J'ai passé un super moment.
Parole de spectateur à suivre pour ce 9e et dernier épisode de la saga sorti aujourd'hui. La Bourse de Paris en légère baisse, moins 0,15% à 5 959 points.
Bonsoir Anissa, le ciel, quelle couleur demain?
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors demain, c'est une journée très venteuse sur une grande partie du pays. De la pluie également à l'ouest et des températures qui continuent de grimper. Demain, une journée très douce. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Après s'être compté dans la rue, les syndicats sont donc ce soir de retour à la table des négociations. Après-midi marathon à Matignon sur la réforme des retraites. Depuis 14h, tous les leaders syndicaux défilent. Et voilà qui a donné le ton, le patron de la CGT, Philippe Martinez, à la sortie du bureau du Premier ministre.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'annonce, en tout cas qu'il annonce à la CGT en priorité ou en exclusivité, l'annonce du retrait du projet de loi. Il y a une multilatérale demain et peut-être qu'il y aura des annonces. Mais il ne faut plus traîner, hein, parce que la situation est compliquée pour eux.
Olivier Samin, bonsoir. Vous êtes sur place pour Europe 1 à Matignon. Position inchangée du côté de la CGT, on l'a entendu, mais c'est maintenant au tour du leader de la CFDT, Laurent Berger. On l'attend évidemment d'être reçu.
Oui, Laurent Berger qui est entré il y a une grosse demi-heure pour rappeler sa demande d'un retrait de l'âge d'équilibre à 64 ans et pour préciser les pistes alternatives que la CFDT met en avant pour favoriser un retour à l'équilibre. Des pistes qu'il a déjà évoquées ces derniers jours, une hausse des cotisations ou l'utilisation d'une partie des réserves actuelles des systèmes de retraite. Deux pistes que rejette catégoriquement le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui était dans le bureau d'Édouard Philippe juste avant précisément Laurent Berger.
Et Laurent Berger donc viendra sur Europe 1 ensuite expliquer sa position puisqu'il sera l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1 demain matin. Olivier, est-ce qu'à ce stade, les syndicats qui sont déjà sortis ont l'impression que le gouvernement est sur le point ou prêt à bouger?
Oui, en tout cas, les syndicats qui, comme la CFDT, acceptent de discuter de la réforme. L'UNSA, par exemple, qui a décelé des ouvertures possibles dans les propos du Premier ministre cet après-midi, notamment sur une meilleure prise en compte de la pénibilité qui, on le sait, concernera à l'avenir le public comme le privé. Ouverture possible aussi sur le sujet des garanties sectorielles. Entendez, le respect du contrat social des salariés des régimes spéciaux. Le chef de file de la CFTC, Cyril Chabanier, lui, a affirmé être sorti un peu plus optimiste qu'en entrant. Il a notamment évoqué l'éventualité d'un relèvement du minimum de retraite un peu au-delà des 1 000 euros annoncés jusque-là par Édouard Philippe.
Olivier Sama en direct de Matignon pour Europe 1 et le patron de l'UNSA, hein, vous l'avez cité, deuxième syndicat à la SNCF, premier à la RATP, vient réagir ce soir dans quelques minutes. Laurent Escure, mon invité, juste après ce journal.
Et c'est l'Élysée qui a redonné la ligne aujourd'hui. Le président n'abandonnera pas, ne dénaturera pas le projet. Voilà ce qu'ont fait savoir ses conseillers. Mais Adrien Beck, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron se dit prêt, disposé à l'améliorer, ce projet.
Oui, ni abandonné, ni dénaturé. Vous l'avez dit, le signal est en direction de la CGT et de Force Ouvrière. Il est très clair, il n'y a rien à négocier sur la réforme elle-même et sur sa philosophie. En revanche, Emmanuel Macron semble avoir entendu la voix des syndicats réformistes, ceux comme Laurent Berger, qui ne veulent pas de l'âge pivot à 64 ans et qui l'ont fait savoir. L'entourage du chef de l'État assure donc maintenant que cet âge pivot est un élément de discussion. Au passage, en faisant connaître sa position dès ce matin, Emmanuel Macron cadre cette discussion donc qui a lieu en ce moment même à Matignon. Alors, quelles améliorations précisément peut-on imaginer? Bien, une piste qui circule serait un âge pivot différencié en fonction de la pénibilité du travail. Dans la majorité, certains plaident même pour l'abandon pur et simple du concept d'âge pivot au profit d'un autre mécanisme. Un poids lourd en marche l'assure. Si on ne revient que partiellement dessus, ça ne sera pas une victoire pour Laurent Berger et il est important de lui offrir une porte de sortie.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1, merci.
Emmanuel Macron qui redonne aussi l'objectif, mettre la grève sur pause pendant les fêtes. Pour l'instant, alors on n'y est pas, hein. C'est plus que jamais la cohue dans les gares.
La cohue pour ceux notamment qui tentent de changer leur billet et de trouver un siège dans les quelques trains qui rouleront ce week-end, début des vacances de Noël. À peine plus de la moitié des passagers ont leur trajet maintenu et 13% ont trouvé un plan B. Ça veut dire que beaucoup n'auront pas de solution.
Demain, 15e jour de grève. Et si on veut voir le verre à moitié plein, un trafic qui s'améliore quand même légèrement avec 2 TGV sur 5 et 4 TER sur 10 en Ile-de-France, toujours un quart des Transiliens seulement. Et à la RATP, Sébastien, 6 lignes de métro, toujours fermées.
Et un homme se retrouve en première ligne pour tenter d'arracher cette sortie de crise dont on parle. C'est le nouveau monsieur retraite du gouvernement, l'ancien député Laurent Pietraszewski. Il a pris ses fonctions aujourd'hui. Passation de pouvoir avec Jean-Paul Delevoye.
Derrière l'expression passation de pouvoir, il y a l'idée d'une continuité au service de l'action publique. Cette continuité est ici indispensable pour poursuivre le dialogue social. Dialogue social auquel je crois intimement et que j'aurai à cœur de promouvoir dans les prochaines heures auprès des partenaires sociaux. Je mettrai toute mon énergie à me montrer digne de la tâche qui m'est confiée aujourd'hui et dont je mesure avec vous toute l'importance.
Voilà, Laurent Pietraszewski, le nouveau secrétaire d'État aux retraites, 53 ans. Il fut longtemps DRH au sein du groupe Auchan et on sait maintenant que les 71 000 euros qu'il a touchés étaient ses indemnités de licenciement.
Et ça fait quand même déjà beaucoup parler, ancien DRH, donc habitué à négocier avec les syndicats, en particulier dans le Nord. Des syndicats locaux, Lionel Gougelot, bonsoir, qui n'ont pas gardé que de bons souvenirs, hein, semble-t-il.
Ah oui, effectivement. À commencer par Guy Laplatine, délégué CFDT, il se souvient, lui, d'un affrontement assez viril en 2002 avec l'ancien directeur du personnel, quand une vendeuse avait fait l'objet de poursuites pour avoir donné un petit pain à une cliente sur le parking du magasin. Les deux hommes ont même failli en venir aux mains.
La garde à vue, enfin, c'était énorme. Vous imaginez le traumatisme que c'est pour la collègue. C'était incroyable comme situation, quoi. Ça avait été assez chaud et on a eu une discussion très ferme. Il y a quelqu'un qui a dû s'interposer, d'ailleurs, à un moment donné. Voilà. Ça va être cocasse, quand même, pour lui de se retrouver en face de Laurent Berger. Après avoir joué de la chasse aux sorcières sur des élus CFDT. Ça va être compliqué sinon pour lui, hein, s'il n'a pas changé.
Mais pour Habib Hamdoud, le délégué CGT, Laurent Pietraszewski est surtout associé à la politique anti-syndicale du groupe Auchan, comme quand il a défendu, il y a 3 ans, une caissière de Tourcoing licenciée pour une erreur de 85 centimes seulement.
Ses méthodes, c'était de personnaliser le problème et de cibler l'élu qui défendait cette fille, avec des témoignages, des pressions, des pétitions contre moi. Jusqu'à encore aujourd'hui, ça me suit, puisque à chaque fois que je vais travailler, je parle à quelqu'un, ils vont voir les gens, ils disent « faut pas parler avec lui, dangereux, machin ». J'ai été mis au placard, personne veut parler avec moi, quand je me présente, on raye mon nom, voilà, des choses comme ça. On fait taire ceux qui mettent des mots sur la réalité.
Alors en fait, lui ou un autre pour discuter sur la retraite, peu importe, conclut le cégétiste, ce qui compte pour nous, c'est le retrait de la réforme.
Un reportage de Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, et on apprend ce soir par ailleurs que la justice est désormais saisie sur les manquements, les oublis entre guillemets, de Jean-Paul Delevoye, qui n'avait pas déclaré toutes ses activités saisies, déclenchées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Une mère se bat pour conserver la garde de son fils que la justice veut renvoyer chez son père au Japon. C'est à suivre dans votre journal de 18h.
Et puis Donald Trump à 2 doigts de la mise en accusation. Vote sur l'impeachment ce soir.
Votre grand journal du soir, c'est 2 heures d'info jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Une histoire à présent qui marque une petite commune de l'Aude, le combat d'une Française qui a fui son mari violent au Japon.
Il y a 2 ans, elle est venue se réfugier en France avec son fils qui a aujourd'hui 4 ans. Mais la Cour de cassation vient de valider une décision qui la force à rendre l'enfant à son père. Benjamin Péter, vous êtes sur place à Salle d'Aude. C'est une histoire qui mobilise le village car l'enfant pourrait devoir partir pour le Japon dès le lendemain de Noël.
Oui, à 11h, le 26 décembre, le père de Louis doit venir le récupérer et Marine, sa maman, ne peut pas le suivre. Elle n'a aucune garantie d'avoir de ses nouvelles ou de pouvoir ne serait-ce que le revoir avant sa majorité, ses 20 ans au Japon. Elle est désemparée, elle a même pensé s'enfuir avec son fils, mais voit bien que ça n'arrangerait rien.
Louis sera encore plus traumatisé parce que si je vais me cacher, c'est quoi, les gendarmes vont me retrouver dans 2 mois, ils vont le prendre et après ce sera moi qui sera en faute. Et moi, je continue à penser qu'il faut ne rien faire d'illégal. Je vais essayer de faire le plus beau Noël pour lui. Ce sera quand même sûrement le dernier. Faire semblant que tout va bien pour lui. J'irai mal après.
Dans le village, un comité de soutien s'est monté. Magali est la maman du meilleur copain de Louis. Elle ne comprend pas que la justice française retire cet enfant à sa mère.
C'est l'ami de nos enfants. C'est ce petit garçon qu'on invite à la maison pour les anniversaires. On va nous l'enlever et on nous interdit de savoir ce qui va se passer pour lui alors que Louis est français. On a peur. Parce qu'on se dit que ce système auquel on croyait, quand il est dysfonctionnel, il peut même broyer des enfants de 4 ans. On est juste révoltés.
Alors Marine espère encore un geste du procureur, du président de la République à qui elle lance un appel et compte porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Benjamin Péter dans l'Aude pour Europe 1.
Et puis on l'a appris tout à l'heure, hein, cette fois Isabelle et Patrick Balkany renoncent clairement en mars prochain à se présenter à leur réélection à Levallois-Perret. Information hein, transmise ce soir et confirmée par leur entourage.
Et les époux de Levallois qui sont menacés de condamnations encore plus lourdes à leur procès en appel pour fraude fiscale puisque l'accusation a requis 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate pour Patrick Balkany. 4 ans dont 2 avec sursis pour son épouse Isabelle. Le parquet général qui demande aussi 10 ans d'inéligibilité pour tous les deux avec exécution provisoire, ce qui veut dire que cela les empêcherait, quoi qu'il arrive, si cette peine était décidée, de se présenter au municipal, même en cas de pourvoi en cassation.
Exactement. On y reviendra sur cette information, une des informations de cette soirée, ce renoncement du couple. Aux États-Unis maintenant, Sébastien, on attend ce soir un vote historique. Donald Trump va très probablement devenir le 3e président mis en accusation par le Congrès.
Dans un tweet, il affirme en majuscule qu'il n'a rien fait de mal, mais la Chambre des représentants a retenu 2 chefs d'inculpation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. C'est cet acte d'accusation qui lance le procès en destitution qui aura ensuite lieu au Sénat. Sonia Dridi, vous suivez les débats ce soir à Washington et ils vont être longs.
Oui, démocrates et républicains vont débattre pendant 6 heures, divisés de manière équitable entre les deux camps, avant de procéder à ce vote historique. Alors ces débats ont été un peu retardés puisque les républicains ont déposé des motions pour ajourner la procédure sans succès. Une dernière tentative de l'opposition alors que l'issue du vote est déjà connue de tous. Avec une chambre à majorité démocrate, Donald Trump sera inculpé dans la soirée. La balle sera alors dans le camp du Sénat qui devra organiser son procès en début d'année. La Chambre haute est contrôlée par les républicains, donc le président américain sera très certainement acquitté. En attendant, il utilise cette épreuve pour galvaniser sa base. Il ne sera d'ailleurs pas à Washington au moment du vote, puisqu'il s'envole dans l'après-midi pour le Michigan, où il va tenir un meeting électoral. Des sources proches de la Maison-Blanche le disent très humilié par cette procédure. Donald Trump sera le 3e président à être inculpé dans l'histoire américaine, après Bill Clinton et Andrew Johnson. Richard Nixon avait préféré démissionner avant le vote de la Chambre.
Sonia Dridi en ligne de Washington.
J'ai presque eu peur. Nous partons là, ce soir, maintenant, dans une galaxie lointaine. Très, très lointaine.
Et oui, la saga Star Wars attire toujours autant de fans dans les cinémas. Sorti aujourd'hui du 9e volet, le dernier, l'ascension de Skywalker.
Ou pas.
La fin de la saga. On écoute les spectateurs.
Star Wars a toujours été de la science-fiction qui tâche.
Et c'est toujours à 2 doigts d'être du nanar. Mais c'est toujours parvenu à ne pas en être. Là ça allait bien. En fait on dirait que les scénaristes ils ont bien lu tous les commentaires des fans. C'est quasiment une fanfiction.
On voit les anciens vaisseaux en plus des nouveaux. On voit les anciens personnages en plus des nouveaux, etc.
Les effets visuels, les effets spéciaux, etc. Ça reste à la hauteur d'un Star Wars. Il y a les moments d'émotion, etc. Ça en vaut la peine, voilà.
Un poil déçu quand même.
Est-ce que c'est l'un des meilleurs ou pas du tout?
Là, comme ça, je pense qu'il faut que je le revoie avant de me faire une opinion, mais il y a des moments super sympas.
Oui, j'ai passé un super moment. C'est pour ça que j'aime le cinéma. C'est pour ce genre de truc, grand écran et m'en prendre plein la tête. C'est ce qui se passe. J'ai kiffé.
La force sera avec toi, toujours.
Voilà, on attend des millions de spectateurs dans les salles, hein, clairement.
Normalement. Je disais ou pas pour l'Ascension, parce que les avis sur les réseaux sociaux sont très mitigés. Hein. Enfin, on a entendu, en tout cas, on ira se faire une idée nous-mêmes.
On est toujours déçus quand c'est le dernier.
Bah, merci Sébastien Krebs, c'est pas le dernier pour vous. Hein. Encore 3 rendez-vous en direct avec l'info, 18h30 le prochain, merci.
C'est bientôt l'hiver et en hiver comme en été, les pneus 4 saisons Hankook vous assurent une tenue de route parfaite. Hankook vous présente la météo.
Anissa, c'est de la pluie que vous nous annoncez pour demain.
Oui, c'est le défilé des perturbations hein, depuis quelques jours. Des perturbations qui arrivent par l'ouest en file indienne. Voilà, elles se succèdent. Alors demain, sur la Bretagne, la Normandie, le Nord, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire, donc en fait sur le quart nord-ouest hein, de la France, eh bien, les nuages seront très épais et la pluie sera là. Donc il va falloir vraiment, si vous nous écoutez dans le quart nord-ouest, prévoir votre parapluie pour demain. Dans le sud-est, également au bord de la Méditerranée, jusque sur les Alpes du Sud et même dans la vallée du Rhône, le ciel est très nuageux avec là aussi de la pluie. Partout ailleurs, si je n'ai pas cité votre région, ça veut dire que demain vous passerez la journée au sec avec un ciel mitigé entre nuages et éclaircies. Attention, le vent souffle, il souffle encore très fort demain, le vent, et pas que sur les côtes. Ça y est, le vent s'engouffre dans les terres maintenant et sur quasiment toute la France, c'est le vent du sud qui va souffler avec des pointes à 80 km/h, même dans les terres, 120 km/h sur les Pyrénées demain. Du coup, vu que c'est le vent du sud, vous comprenez que les températures, elles continuent de grimper.
Ça, c'est terrible.
Il fait très doux. Écoutez, demain matin, 3 à 15 degrés, 3 à Belfort, 11 demain matin à Paris, 11 c'est la température que nous avions cet après-midi à Paris.
Le compte n'y est pas, Anissa.
Non, le compte n'y est pas. 11 demain matin à Paris, 15 à Montpellier et demain après-midi, accrochez-vous, 11 à Strasbourg, 15 à Paris, 17 à Lyon, Clermont-Ferrand et Limoges et jusqu'à 19 degrés à Pau. Je vous rappelle que deux départements sont toujours en vigilance orange crue inondation, la Charente et les Landes.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy avec votre invité.
Il était aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe en début d'après-midi. Il espère des ouvertures rapides sur cette réforme des retraites. Le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure, à mon micro dans 2 minutes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Tous les syndicats ont été reçus aujourd'hui à Matignon en face à face avant une nouvelle réunion multilatérale demain. Premier syndicat à avoir rencontré Édouard Philippe, l'UNSA. Vous recevez maintenant Nathalie Lévy, son secrétaire général Laurent Escure.
Bonsoir Laurent Escure.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce soir. C'est vous en effet qui avez ouvert le bal des discussions avec Édouard Philippe tout à l'heure. Dites-nous, parce que nous n'y étions pas, comment cela s'est passé ?
C'était une discussion qui était franche, qui était où de chaque côté de la table, on était concentrés, parce que la situation l'exige. Il y a une tension sociale dans le pays qui est très forte. Il y a des enjeux énormes autour de ce dossier des retraites. Et donc, il était naturel qu'on essaye de faire de ce moment un moment où le dialogue soit à la fois franc, direct et j'espère constructif.
Alors, constructif, on va s'arrêter sur ce mot-là, à froid, quelques heures après, parce que vous avez effectivement démarré en début d'après-midi. Quel est votre état d'esprit ? Est-ce que vous êtes, oui ou non, rassuré ?
Moi, je ne cherche pas ni à être rassuré ni convaincu. On avait mis sur la table un certain nombre de dossiers, notamment des garanties pour les secteurs les plus impactés, le besoin d'un chantier de pénibilité, à la fois pour les salariés du public et du privé, le besoin d'aménagement de fin de carrière, ainsi qu'un petit coup de pouce au minimum contributif, c'est-à-dire la fameuse base pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui devait être fixée à 1 000 euros et dont nous, on veut qu'elle vise le SMIC.
Et sur ces éléments-là, sur cette pénibilité, sur cette fin de carrière, etc., vous avez senti qu'il y avait une inflexion possible ?
Plus exactement, j'ai senti une écoute attentive du Premier ministre et donc des signes d'ouverture qui resteront à confirmer soit dans la multilatérale demain, soit dans l'expression du Premier ministre demain soir. J'ai compris qu'on pouvait avancer sur ces chantiers. Ça ne veut pas dire qu'on a de garantie, mais qu'en tout cas, il y avait une discussion possible pour qu'on crédibilise le fait que le système universel qui veut être égalitaire soit en même temps équitable parce qu'il y a des disparités sur la pénibilité ou sur les fins de carrière.
Laurent Escure, si on avance sur un de ces points mais pas l'ensemble, qu'est-ce que vous dites demain soir à l'issue de cette multilatérale, de cette plénière ?
Sur ces points, il faut avancer le plus vite possible. Mais j'ajoute quand même le cœur du nouveau conflit, c'est-à-dire la mesure paramétrique punitive qui consiste à faire travailler tout le monde plus longtemps dès 2022 pour les questions d'équilibre. Donc à la fois, moi, je le dis depuis toujours, la question de l'équilibre nous intéresse parce que un système par répartition doit être équilibré. Mais il y a d'autres voies que de faire travailler plus longtemps les salariés, notamment ceux qui ne devaient pas être menacés par cette réforme en 2022.
Donc ça veut dire que concrètement, si l'âge pivot, l'âge d'équilibre à 64 ans, est maintenu demain, vous continuez la grève ?
Alors plus exactement, moi ce que j'ai dit dès la sortie de Matignon, c'est que sur ce sujet précis, s'il y a une mesure paramétrique confirmée et qu'il n'y a pas d'inflexion du gouvernement sur ce sujet, nous appellerions sans doute à des actions autour de ce sujet, plus les quelques éléments qui peuvent encore être des éléments d'inquiétude en janvier.
Des actions, quelles actions ? Ça veut dire continuer les grèves dans les transports ? Ça veut dire aussi des coupures de courant, comme on a pu le voir ?
Moi, je condamne fermement toutes les actions qui sont illégales. C'est très clair. Notre syndicalisme doit s'inscrire dans un cadre démocratique. Et donc, on doit évidemment pas pénaliser les usagers de l'électricité et encore moins faire des coupures sauvages. On n'est plus ni dans du dialogue social, ni dans de l'action de mobilisation. Mmh. Non, moi, je dis que sur une mobilisation plus globale, il peut y avoir, sur le sujet de la mesure paramétrique, s'il n'y a pas d'inflexion, des actions globales qui auront lieu plutôt en janvier. Sur le reste du conflit social, il y a des choses qui sont en train d'avancer.
Mais c'est quoi vos actions globales ? Pardonnez-moi, Laurent Escure, ce serait quoi vos actions globales ?
Ça sera des journées de mobilisation. Après, il faut le définir, il faut en discuter avec l'ensemble des composantes, qu'on évalue tout ce qui sera dit demain, compris peut-être avec des partenaires.
Alors, qu'est-ce que vous a dit le Premier ministre aujourd'hui ? Est-ce qu'il vous a donné une date ou est-ce qu'il vous a dit, voilà, demain, à la sortie de la plénière, je ferai des annonces concrètes ?
J'espère que demain, on aura des réponses un peu plus nettes, à la fois sur ce qui peut être ouvert comme chantier. Et nous, comme on a les deux feux de l'action au feu, c'est-à-dire que non seulement on est dans des mobilisations lorsque c'est nécessaire, et on est dans une action de négociation permanente parce qu'on pense qu'on ne peut pas laisser le gouvernement écrire tout seul cette réforme.
Si demain les annonces vous conviennent, l'UNSA, syndicat majoritaire à la RATP, deuxième à la SNCF, je le rappelle, c'est important, vous appelez les agents à reprendre le travail immédiatement dès vendredi ?
Ça ne se passe pas comme ça.
Pourquoi ?
À la fois, mais je vous le dis, aucun responsable syndical ne vous dira ça. Non seulement on n'appuie pas sur un bouton pour que les gens se mettent en grève illimitée, et on appuie encore moins pour qu'ils arrêtent de faire une grève illimitée. Là, il y a des... J'ai vu qu'il y avait des choses sur la table pour essayer de garantir, c'est ce qu'ils demandent, le contrat social des cheminots de la RATP et de la SNCF. Il faut que les entreprises le démontrent aux agents et nos structures UNSA se détermineront, j'espère demain,
mais alors en espérant un retour au travail et un retour à la circulation des trains, quand ? Parce que c'est ça qui préoccupe les Français.
Je comprends, mais de la même façon, pour tout un tas de raisons, les trains, certains trains, c'est déjà prévu, rouleront. La question, c'est de savoir combien. Si les engagements du gouvernement permettent de sortir du conflit, c'est tant mieux. Mais les agents de la RATP et de la SNCF et nos syndicats UNSA de ce terrain auront la totale liberté de regarder si en effet le compte y est ou pas. J'espère que le compte y sera, mais c'est à vérifier.
On n'appuie pas sur un bouton, c'est ce que vous nous dites, Laurent Escure. Un mot encore. Il ne faut pas traîner, a dit Philippe Martinez, le leader de la CGT, à la sortie lui de son entretien qui a été pour le moins rapide avec Édouard Philippe. Il est beaucoup plus fermé que vous. Vous pensez qu'on va là vers une désunion syndicale, les réformistes, vous, la CFDT d'un côté et la CGT qui n'a peut-être pas été entendue?
Ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est ni dans une logique du tout ou rien, ni dans une logique où on aimerait une réforme idéale. Nous, on essaye on n'était pas demandeurs de cette réforme. On en voit des aspects positifs peut-être pour les futures générations, mais on en voit aussi tout un tas d'aspects négatifs. Donc on travaille à la fois pour l'intérêt général du futur, mais également l'intérêt général et les intérêts particuliers des salariés d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra parler de désunion. Sur la question des mesures d'équilibre et les mesures punitives, si elles restent sur la table, il y aura au moins un point commun avec plusieurs organisations. Après, il y a des divergences
stratégiques. Vous vous êtes parlé avec Laurent Berger ? Pas encore.
P- pas encore, parce qu'on ne s'est pas croisé. Je pense qu'on se parle régulièrement, enfin, avec tous ceux qui, dans le syndicalisme, on essaye d'avoir des relations non seulement parfois fructueuses et qu'on appelle des intersyndicales, mais aussi on a des relations courtoises. Il n'y a pas de discuter là-dessus.
Merci beaucoup Laurent Escure d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1 et Laurent Berger, on attend évidemment le patron de la CFDT également, toujours, enfin en tout cas tout à l'heure encore avec Édouard Philippe. Il sera l'invité demain matin à 8h15 de la matinale de Mathieu Béliard. Il répondra aux questions dans l'interview politique de Sonia Mabrouk.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec la suite du programme, Nathalie Lévy.
Avec évidemment les grandes voix, cela s'impose. Débriefons ce qui s'est dit aujourd'hui à Matignon avec eux dans ce studio. Est-ce qu'on est tout près de la sortie de crise? Que va dire Édouard Philippe demain? On attend les grandes voix.
Vous pouvez vous aussi poser vos questions aux grandes voix. N'hésitez pas à réagir en direct au 39-21, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
L'entretien s'éternise et il pourrait être décisif. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, dans le bureau du Premier ministre à Matignon depuis trois quarts d'heure. Journée de négociation sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron se dit prêt à des améliorations sur la question de l'âge pivot à 64 ans, qui est le principal point de crispation. Dans les transports, prévision de trafic en légère amélioration. 2 TGV sur 5 demain, 4 TER sur 10, 1 Transilien sur 4 et à Paris 6 lignes de métro fermées. Pas de coup de pouce pour le SMIC, le salaire minimum sera revalorisé d'1,2% au 1er janvier pour suivre l'inflation. Ça fera 15 euros de plus par mois, 1 219 €. De grosses amendes infligées aujourd'hui par l'autorité de la concurrence, 58 millions d'euros pour 6 fabricants de compotes accusés d'entente sur les prix, dont Andros, Materne et Lactalis. Et puis 414 millions d'euros cette fois pour 4 sociétés accusées, dont Sodexo et Natixis, accusées d'avoir verrouillé le marché des titres restaurants. Donald Trump menace constante pour la sécurité des États-Unis, dit la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi. Vote prévu ce soir au Congrès pour l'inculpation du président américain. Le foot, 8e de finale de la Ligue des Champions ce soir, 18h45, Lyon-Toulouse. On y sera dans le journal de 19h. Et puis 5 matchs à 21h, Le Mans-PSG, Brest-Bordeaux, Nîmes-Saint-Etienne, Nantes-Strasbourg et Amiens-Rennes.
Et Sébastien, le retour de vos infos à 19h. Anissa, deux départements vigilance orange.
Oui, toujours effectivement dans l'ouest, Nathalie. Deux départements vigilance orange, crue et inondation. Attention, prudence si vous nous écoutez en Charente et dans les Landes. On garde un œil, hein, bien sûr, sur la situation de ces cours d'eau qui sont sortis de leur lit à cause des pluies. Eh bien, demain, sachez que les pluies seront encore très présentes. C'est un défilé de perturbations en ce moment à l'ouest, avec demain en Bretagne, en Normandie, sur le nord, les Pays de la Loire et le centre-val de Loire, des nuages épais et des précipitations tout au long de la journée. Il va pleuvoir également dans le sud-est, tout au long de la Méditerranée, même jusque sur la vallée du Rhône. Ça remonte, des pluies surtout le matin qui se calmeront dans l'après-midi. Partout ailleurs, c'est un temps sec, parfois ensoleillé, surtout sur l'est, de l'Alsace aux Alpes. Là, vous aurez beaucoup de soleil et les températures toujours très douces, bien au-dessus des normales de saison. 11 à 19 degrés demain après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec comme chaque jour jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
On se parle dans un petit instant. Qu'est-ce qu'on attend? On attend évidemment la sortie de Laurent Berger du bureau d'Édouard Philippe, n'est-ce pas, le leader de la CFDT. Alors on attend ensemble et on se retrouve dans une seconde.
Et vous pouvez poser vos questions aux grandes voix en direct. C'est au 39-21 que ça se passe et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h. Comme chaque jour, le débat des grandes voix. On va bien sûr débattre autour de l'actualité avec ce soir autour de vous Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Vous avez regardé, j'imagine, cet après-midi les propos entendus, les propos des leaders syndicaux qui sont sortis du bureau d'Édouard Philippe. Et là, celui qu'on attend évidemment, c'est Laurent Berger pour la CFDT. Peut-être là, dans les toutes prochaines minutes. En tout cas, ça dure. Si ça dure, est-ce que c'est bon signe? Qui veut démarrer?
Oui, si ça dure, surtout avec la CFDT, ça veut dire qu'on engage quand même une discussion de fond. Donc, on a bien vu hier, quand on n'a rien à discuter, ça donne ce qui s'est passé avec Martinez.
Avec Philippe Martinez.
Une réunion ric-rac de quoi, de moins de 30 minutes.
Et qui est sorti en faisant grise mine.
Plus ça dure et plus les chances d'un pré-accord, en tout cas d'un début de négociation entre les syndicats modérés, réformistes, comme on les appelle, c'est-à-dire surtout la CFDT et l'UNSA, qu'il ne faut jamais oublier.
Et la CFTC.
Et la CFTC, et peut-être même la CGC, on ne sait pas. En tout cas, les syndicats dits modérés, c'est plus facile à dire, ça veut dire qu'il y a des ouvertures. On l'a senti avec l'UNSA.
On l'a senti avec Laurent Escure de l'UNSA.
Vous avez interviewé. On voit bien qu'il y a des avancées. Alors, ces avancées, qu'est-ce qu'elles... Il y a deux types d'avancées. Il y a des avancées sur les points qui sont particulièrement... demandé par les syndicats, c'est-à-dire par exemple la pénibilité, je prends cet exemple-là, ou les 1000 euros, etc. Et puis il y a le fameux pivot. Que se passera-t-il sur le pivot? Mais on va aussi, il va y avoir un aménagement, je ne sais pas de quelle nature, mais un aménagement du pivot.
En tout cas, il y en a un qui n'a pas pivoté. C'est Philippe Martinez. Oui. Mais il a laissé percer le bout de l'oreille aussi, puisqu'il a annoncé... Je lis la phrase que m'a fait remarquer d'ailleurs Sébastien Krebs. Je crois que vous l'avez diffusée. Philippe Martinez, il dit il y aura des annonces demain, mais il ne faut pas traîner.
Exactement.
Quand il dit qu'il ne faut pas traîner, c'est pour évidemment la grève, vraisemblablement, la persistance de la grève.
Mais là, ce qui se passe, c'est le mandat qui a vraiment été donné à Édouard Philippe, c'est de trouver les voies de sortie de crise. C'est l'expression qui m'a été donnée à la mi-journée par un ministre de premier plan. Là, c'est très clair. Édouard Philippe doit demain soir avoir un début d'éléments sur lequel derrière on négociera le détail.
Ça.
Mais il faut que demain soir, il y ait cette voie de passage. Et avec une autre indication importante, il faut offrir une porte de sortie digne à la CFDT. Donc c'était vraiment le ton à la sortie du Conseil des ministres ce matin. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ils sont en train de chercher les conditions de sortie dignes pour la CFDT. Qu'est-ce que ça peut être, ces conditions de sortie? Parce que il faut aussi qu'elle soit digne pour le gouvernement. Donc il faut sûrement que le mot H-pivot reste quand même. Sur quoi peut-être on travaille en ce moment? C'est une des pistes au milieu de plein d'autres. C'est sur un H-pivot qui serait modulé en fonction de la pénibilité du travail des uns et des autres. Est-ce que ça suffit à Laurent Berger? C'est pas certain. Ça, c'est ce qu'espère le gouvernement.
C'est sûrement pour ça que ça dure.
Parce que c'est compliqué pour la CFDT. On l'a dit hier soir déjà un petit peu autour de cette table. C'est compliqué d'être digne si l'H-pivot reste. Alors après...
On peut changer une formule.
C'est l'habillage financier de toute façon.
Mais là, si ça dure, et encore heureux, j'ai envie de dire que ça dure. Hein, on est au 14e
jour
de grève.
Donc un aménagement de l'âge pivot, c'est quand même là-dessus qu'on se dirige. Charles, vous me dites dans une seconde ce que vous en pensez, votre lecture, bien sûr, juste après.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1.
Tous les yeux sont braqués sur Laurent Berger, la CFDT. Dans quelle attitude va-t-il sortir de Matignon? On l'attend. En attendant, la question, évidemment, Charles Villeneuve, et on l'évoquait, c'est comment on se sort de l'âge pivot sans renoncer pour le gouvernement, sans avoir l'impression d'être forcé à renoncer pour Laurent Berger? On réaménage.
Oui, le mot-clé de celui qui s'est mis le plus dans la mouise, finalement, dans cette affaire, c'est-à-dire le président de la République qui a voulu tout faire, les trois volets de la réforme, qui s'est compliqué la tâche, qui a compliqué les esprits publics, au lieu de faire ce qu'il avait fait pour le prélèvement fiscal à la source, c'est d'envoyer une lettre extrêmement claire pour bien expliquer finalement à tous les contribuables ce qui allait arriver. Eh bien, c'est le mot dénaturé. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, en utilisant ce mot, il ne voulait pas, si vous voulez, donner le sentiment de lâcher le Premier ministre, et ça c'est important, mais en même temps, de lui donner évidemment mission, comme le disait Emmanuel il y a quelques instants, lorsque vous étiez évidemment en train de passer l'écran
off,
de pub.
Comme on dit.
il lui a délivré un mandat assez large pour trouver les voies de la sortie. Ouais. C'est-à-dire pas seulement avec la CFDT d'ailleurs, mais aussi avec, on l'a vu, avec l'UNSA, Gérard le rappelait tout à l'heure, aussi bien sur la retraite à 1000 euros pour tout le monde au minimum, que la pénibilité.
Le totem, je disais hier soir, c'est le totem du Premier ministre, l'âge pivot. Il faut que le totem soit gardé au moins, je dirais, sur son socle, mais qu'il soit moins répulsif pour les syndicats modérés.
Ouais.
Alors c'est ça qui est difficile. Et en même temps, qu'on garantisse l'équilibre financier du système.
C'est ça le point
d'achoppement. Et c'est là, effectivement, que c'est le plus difficile. Parce que,
et c'est pour ça que ça dure,
oui,
je pense.
C'est le point le plus important et je pense que beaucoup de nos auditeurs n'ont pas obligatoirement compris pourquoi il fallait cet équilibre. C'est-à-dire que ce que veut le gouvernement, c'est quand on va entrer dans le nouveau système, c'est qu'on soit à l'équilibre de façon à ce que ce système après s'auto-génère tout seul.
Et ils ont fait des propositions à l'UNSA et la CFDT.
Bien sûr, et il faut voir que ce point d'équilibre, c'est complètement hors de la réforme. C'est, ils le font uniquement pour, comme si nous, un ménage, on avait besoin d'équilibrer nos comptes, il fallait trouver une petite manière de les assainir. Et cet objectif quand même d'équilibrer les comptes, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout abandonné au sein du gouvernement. En tout cas, les ministres de Bercy, ils y tiennent mordicus à leur équilibre. Je ne sais pas si vous avez vu qu'également Laurent Berger maintenant n'est plus contre du tout cet équilibre. Donc il faut maintenant juste trouver la bonne voie de passage.
Comment, oui, il l'a dit d'ailleurs en relevant les cotisations ou en touchant effectivement aux réserves.
Attendez, vous me dites
dans les réserves. Les cotisations, c'est quand même assez tabou aussi.
On a tellement de déficit. Bah oui.
Alors attendez, vous me dites ça dans une seconde, mais on a Olivier qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Olivier, bienvenue à vous.
Oui. Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Donc moi, j'aurais souhaité savoir si chaque quinquennat, chaque président veut faire sa grande réforme des retraites. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de rester sur cette ligne de dire « on ne lâchera rien », sans quoi le quinquennat finalement est terminé? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une question de principe, de dire « on tient », plutôt que des marges budgétaires, parce que finalement, si le gouvernement lâche maintenant, c'est vraiment l'abandon en race campagne, le Premier ministre sera débarqué et le quinquennat sera terminé de ce point de vue-là.
Ça, c'est le scénario.
Mais ça, c'est le scénario catastrophe, Olivier. Intéressant. Merci,
non,
Olivier.
Non, mais je trouve qu'Olivier, il pose quand même l'une des questions essentielles de cette affaire, parce qu'il y a la bataille de l'opinion, et l'opinion, avec le dernier sondage ELAB, qui, je crois, a été publié tout à l'heure, il y a quelques heures, montre bien que l'opinion est de plus en plus défavorable, finalement,
à cette réforme des retraites.
Oui, telle qu'elle est présentée.
7 points de plus que favorable.
Et là où notre ami auditeur pose la bonne question, je trouve, c'est qu'on mesure mal le prix que le pouvoir devra payer à l'issue de ce conflit.
Mais c'est pour ça qu'il faudra...
Il ne faut pas oublier que nous sommes à 3 mois... De la première échéance électorale avec les municipales, chaque année, il y aura des échéances.
C'est pour ça qu'il faudra que ça n'ait pas l'air d'être un renoncement. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça passe.
Comme... Ce qu'ils disent, c'est on est bien conscient qu'aujourd'hui, tout le monde considère que nous, exécutifs, on est responsables des blocages et que ce n'est pas la CGT, FO ou Sud, et que c'est juste logique de trouver une solution de déblocage. Après, la plus grosse erreur, on l'a dit sûrement beaucoup déjà à ce micro, c'est, pardonnez-moi le mot que j'ai utilisé, c'est la foirade totale de préparation et de présentation de cette réforme. C'est quand même marrant qu'on pose aujourd'hui la question aux gens de « qu'est-ce que vous pensez de cette réforme ?» à partir du moment où moi j'ai fait le test, y compris dans cette rédaction, où chaque matin on fait une conférence de rédaction, où chaque matin on présente les éléments d'une certaine manière de la réforme, où je peux vous dire qu'une bonne partie de la rédaction n'a toujours pas très bien compris comment ça va fonctionner. Donc ça demande un vrai effort d'aller regarder le rapport de Levoix, de lire, de s'informer.
Et pourtant, ils ont eu le temps de s'y pencher, ça fait deux ans qu'ils
bossent dessus. Ils sont toujours pas capables de sortir le simulateur.
Il est déjà au discrédit du gouvernement. Ce que tu viens de rappeler là,
c'est la méthode.
Le fiasco de la méthode,
c'est la méthode,
du timing et de l'ensemble du processus.
Au moins là-dessus, ils ont une faute énorme.
Le gouvernement aura déjà à encaisser le choc de ça. Mais reste après de savoir si on ajoute à ça une reculade. C'est ce que j'appelle une reculade. Il y a un recul ou une reculade? Le recul, c'est des concessions.
C'est ce que disait Olivier.
Mais la reculade, ça veut dire
on mange
son chapeau et dans ce cas-là, on perd sur les deux tableaux.
Mais ça n'arrivera pas. Sinon, c'est fini, il n'y a plus de réforme.
Non, parce que c'est payé très cher.
Le prix de cette
réforme qui finalement a ajouté à la confusion.
Non, puis attention, la CFDT, l'UNSA, la CFTC soutiennent la réforme par
Bien sûr.
Donc c'est le gouvernement se sent légitimé par le fait que.
Alors on se demande dans un instant à tous les trois, enfin bref, tous ceux qui sont là, comment on fait? Est-ce qu'on va vers les cotisations? Est-ce qu'on va vers ce fonds de retraite? Dans une seconde.
Et le débat des grandes voix continue dans un instant. C'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Alors, d'une minute à l'autre, peut-être la sortie de Laurent Berger, leader de la CFDT, du bureau d'Edouard Philippe. On l'attend. En tout cas, c'est certainement avec lui que cela aura le plus duré cet après-midi. C'est lui qui clôture le bal des partenaires sociaux.
En tout cas, des grands, il y en a encore après. Il y a la CGC notamment qui reçoit.
La CGC, vous avez raison, à 20h15, je crois.
Mais ça fait partie du cinéma de faire durer. On fait durer parce qu'on sait que faire durer la négo, les gens pensent qu'il y a une négo à juste titre.
Mais là, je pense qu'il y a une vraie négo.
Non, mais justement, mais faire durer.
Là, je pense que chacun est arrivé avec ses modèles, ses lignes rouges.
Mais faire durer la négo avec la CFDT, qui était celle qui avait dénoncé le gouvernement il y a 15 jours, c'est une très bonne affaire. Plus ça dure, donc plus c'est une chance.
Gérard, tu sais très bien que ça va s'arrêter juste avant 20h. Pour les grands journaux.
Oui, pour le 20h.
Évidemment.
C'est ce qu'on appelle la communication.
C'est ça. Alors attendez, parce que la communication, c'est bien, l'âge pivot après, peut-être, mais après, qu'est-ce qui se passe avec
la
base ?
Qui paye
alors,
après ?
Qui paye, on va y venir, mais la base d'abord, parce que sur le terrain, il va falloir y aller, il va falloir leur dire qu'on a cédé ou qu'on a renoncé, ou peut-être pas employer ces mots-là d'ailleurs, pour tous ces leaders syndicaux. Mais leur base, comment s'assurer qu'elles les suivent ?
Non,
que
ça
ce
va
soit
être très dur,
à la CGT, que ce soit à l'INSA.
Si vous regardez la CGT. A priori,
syndicat
c'est quand
RATP.
Même le syndicat qui aura le plus perdu. Ils ont été en retard pour lancer la grève. N'oubliez pas que c'est l'UNSA à la RATP qui avait fixé cette date du 5 décembre. Donc c'est rarissime dans notre pays que la CGT soit à la ramasse d'un autre mouvement. Ils ont même mis du temps à se décider de partir dans un mouvement reconductible. Ça a été les derniers des gros syndicats qui sont contre à dire qu'ils allaient partir dans un mouvement. Aujourd'hui, on n'entend plus qu'eux, c'est eux qui mènent la danse. Et puis, c'est quand même vraiment la CGT, notamment du côté des conducteurs de train, qui mènent la danse. S'ils n'obtiennent rien, ça va être très, très dur pour la suite de la CGT. Puis après, effectivement, il y a un peu ce que disait, je crois, Charlie hier soir sur comment Laurent Berger va réussir à faire passer le fait de ne pas avoir obtenu tout ce qu'il voulait auprès de ses militants.
Mais si je me souviens bien, Emmanuel, la CFDT a déjà eu un avatar de cette dimension, a perdu quasiment 15% d'un certain nombre de ses salariés qui ont rejoint la CGT.
Oui. Parce qu'elle avait été considérée comme étant trop négociatrice, enfin d'acceptant trop les conditions du gouvernement. On avait dit, c'est un syndicat finalement qui s'est couché et ça leur a fait perdre effectivement une bonne partie de leur militant.
Cela étant, Laurent Berger, son secrétaire général, a annoncé clairement la couleur puisqu'il ne voulait pas de l'âge pivot à 64 ans. Il était pour le régime universel à points. C'est le cas aussi.
Lui, il est vraiment très droit dans ses bottes. Oui. Et pour le moment, c'est vrai qu'on n'entend pas, à l'inverse de 95 quand il y avait eu ces grosses crises, ou après, quand il y avait eu d'autres problèmes à la CFDT, on n'entend pas l'interne s'exprimer. On n'entendait pas beaucoup de CFDTistes, quand la CFDT n'avait pas encore appelé à manifester, qui étaient quand même dans les manifestations locales. On ne les entendait pas dire « Oh là là, mais Laurent Berger n'a rien compris, regardez-nous sur le terrain. » Non. J'ai quand même l'impression qu'il y a une forme d'unité au sein même de la CFDT. Puis la CFDT est un syndicat qui est très décentralisé, qui n'est... Alors, même si on arrive quand même à décider encore d'en haut, mais c'est un syndicat où il y a de l'autonomie à l'intérieur.
Excusez-moi, j'ai eu un moment d'égarement, mais c'est simplement parce que j'essaie d'écouter, de comprendre
non,
aussi.
Non, c'est votre concentration.
Mais j'écoute Laurent Berger, si vous voulez tout, si vous voulez tout savoir. Alors, vous voulez savoir.
Ben oui, on veut savoir.
Alors, pour l'instant, il nous parle toujours d'un désaccord. Là, à l'heure où nous parlons, il sort d'Edouard Philippe, du bureau d'Edouard Philippe, en nous parlant quand même d'un désaccord, toujours sur l'âge d'équilibre,
fameux 64 ans,
cette fameuse âge pivot. Même tout a été évoqué, la pénibilité, le minimum, etc. Là-dessus, tout a été évoqué. Il nous dit, Laurent Berger, à l'instant, qu'on attend la réunion de demain, la plénière de demain. Et il n'est pas sûr, dit-il, je cite Laurent Berger à l'instant, il n'est pas sûr que les choses aient avancé d'ici demain. Alors, cette circonspection est-elle de façade ou y a-t-il vraiment des doutes ou est-il il dit Laurent Berger
il
est très très prématuré de parler d'une sortie de crise là.
On est au cinéma, il ne peut pas lui après avoir tant râlé
sortir avec le
après
sourire
du premier ministre ça y est, en deux, trois heures, tout est réglé.
Mais il n'empêche que le Premier ministre est pratiquement obligé de trouver de toute façon
de toute
la
façon,
voie de sortie.
L'aménagement,
le pivot sera aménagé pour demain.
Compte tenu du mandat délivré, pas publiquement par le président de la République au Premier ministre, que nous rappelait tout à l'heure Dutheil, il est obligé de trouver une voie de sortie.
Alors, oui. Évidemment, Laurent Berger, on va l'entendre dans le journal de 19h. On sera évidemment à Matignon aussi avec Olivier Samin pour Europe 1. Cette sortie de crise, comment on fait? Comment on s'en sort avec cette deadline qui est Noël, là, ce week-end?
Mais Noël, c'est terminé.
C'est
ça.
Noël, Noël, c'est terminé. Oui, on l'a enjambé.
On l'a enjambé, Noël, déjà. Non, mais c'est vrai, il y aura des trains. Bon, ouais. Peut-être que la moitié des trains.
Voilà.
Mais donc, les gens se sont organisés. Le Noël, on est déjà quasiment... Après,
en janvier.
On est dans la... Non, mais simplement, l'étape a passé. Moi, je me souviens de 68.
C'était hier.
Quand, c'était avant-hier. Je me souviens quand Ségui, Georges Ségui, patron de la CGT, va chez Renault à l'île Seguin pour annoncer qu'il avait trouvé un accord avec Georges Pompidou et Jacques Chirac. Et à ce moment-là, il se fait huer et il dit « Bon, mes camarades !» Et il revient en disant « Bon, ça va pas. »
Bon, on s'arrête là, les grandes voix. Mais demain, ici, même heure, même endroit... peut-être se dire les choses clairement. Édouard Philippe aura-t-il fait des annonces concrètes? Est-ce qu'il y aura véritablement du grain à moudre? On verra. En tout cas, pour l'instant, ce soir-là, Laurent Berger nous parle d'un désaccord.
Mais ce serait pas étonnant que demain soir, ils se mettent grosso modo d'accord sur une architecture, qu'on fasse une trêve et qu'on négocie ça début janvier.
Bon, oui. Écoutez, on se dit ça demain.
On essaye.
Et on écoute d'ici là Laurent Berger. Merci beaucoup les grandes voix.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h. La suite du programme, Nathalie Lévy.
C'est évidemment retour sur ces consultations à Matignon. On va entendre le leader de la CFDT qui vient d'en sortir à l'instant. C'est dans le journal de Sébastien Krebs.
Votre grand journal du soir, jusqu'à 20h, tous les jours sur Europe. Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir, Nathalie, avec la suite du programme.
Avec la suite du programme et les grandes voix, vous les entendez qui sont toujours dans le studio, indisciplinés. Alors écoutez bien le programme, s'il vous plaît, grandes voix. 19h10, l'invité politique, on aura peut-être d'autres éléments grâce à Aurore Berger. Elle sera là dans ce studio, députée des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. 19h20, on est demain en France, demain dans le monde, demain dans nos vies, chaque soir. On a un temps d'avance, 19h30. C'est Stéphane Guillon qui vient s'installer à nos côtés, Anissa, jusqu'à 20h, parce que
ça,
tous les soirs,
chouette.
Comme ça, on vous donne du sourire parce que vous êtes dans les bouchons, parce que vous êtes dans vos voitures, parce que vous êtes au fourneau. Ben nous, on vous attend nombreux au 39-21 pour sourire avec nous.
Partez au ski en toute sécurité avec les pneus hiver Hankook. Des pneus aux performances optimales, même par temps froid. Hankook vous présente la météo des neiges.
Où sont les flocons, Anissa? Sur les pistes.
Oui, il y en a sur les pistes, effectivement. Alors, on va faire le tour des pistes, si vous êtes d'accord. On va se balader de sommet en sommet à Val Thorens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de neige fraîche aujourd'hui. Que demain, la journée sera ensoleillée. Et la neige est prévue pour vendredi. Voilà, chute de neige à Val Thorens vendredi. Aux Angles, dans les Pyrénées, journée ensoleillée demain avec des températures positives encore sur les sommets. La neige et la pluie prévues aussi pour vendredi. À Vars, dans les Alpes du Sud, pas de neige fraîche demain. Des éclaircies, une journée partagée entre nuages et éclaircies. Et de la neige, de bonnes chutes de neige prévues aussi pour vendredi dans les Alpes du Sud. Dans le Jura, au Rousse, tiens, demain, 11 degrés prévus dans le Jura sur ce sommet. Et puis des éclaircies et de bonnes chutes de neige pour dimanche. Et puis à Superbès dans le Massif Central, un tout petit peu de neige. Et une journée très ensoleillée avec plus de 10 degrés demain.
Merci Anissa.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Pour l'instant, il y a une volonté d'ouverture, mais on est très très loin encore d'être d'accord.
La CFDT ne lâche pas sur l'âge pivot. Laurent Berger sort à l'instant d'une heure de négociation à Matignon. On décrypte ses déclarations très importantes dans quelques secondes.
Et pendant ce temps, ça se bouscule en guerre pour trouver un train pour Noël. À peine la moitié des voyageurs qui ont réservé partiront à l'heure prévue.
Dans ce journal également, les Balkany renoncent à se représenter à Levallois après des réquisitions plus sévères en appel. Et puis la Coupe de la Ligue, ce soir, l'Olympique Lyonnais reçoit Toulouse. En ce moment même, on ira au stade.
Anissa, au-dessus de nos têtes, le ciel.
Alors demain, c'est une journée avec beaucoup de vent, c'est le vent du sud qui souffle sur tout le pays, pas uniquement les côtes, avec des rafales à plus de 120 km/h. Et ce vent du sud, il va faire monter les températures encore demain. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Tous les regards sont sur lui. C'est lui qui peut faire basculer le conflit vers une potentielle sortie de crise si un accord était trouvé dans les prochaines heures, les prochains jours. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, vient de sortir du bureau du Premier ministre. L'entretien a duré une bonne heure. Écoutez-le à l'instant dans la cour de Matignon.
On a constaté une nouvelle fois un désaccord sur les conditions de retour à l'équilibre. En tout cas, un désaccord sur l'âge d'équilibre qui a été proposé par le gouvernement. Nous avons redit que nous ne voulions pas de cette mesure. Nous avons redit que la CFDT n'a jamais été une organisation qui se moquait de la question de l'équilibre financier. des régimes de retraite, comme l'ensemble des régimes sociaux d'ailleurs, mais que ce n'était pas par une mesure aveugle que constitue l'âge d'équilibre qu'on y parvenait. On a senti, je dois le dire, parce que ce serait injuste autrement, une volonté de discussion et d'ouverture, tant mieux. On pourra refaire un jour l'histoire pour savoir s'il aurait fallu le faire avant, mais en tout cas pour l'instant il y a une volonté d'ouverture, mais on est très très loin encore d'être d'accord.
Bonsoir Olivier Samin, on vous retrouve pour Europe 1 à Matignon.
Bonsoir,
Olivier, alors qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qu'il vient de dire, Laurent Berger ?
Alors, ce que je peux vous dire, hein, en tout cas, moi qui suis dans la cour de Matignon depuis le début de l'après-midi, c'est qu'il y a des délégations qui sont restées peu de temps dans le bureau du Premier ministre, celles de la CGT, par exemple, pas plus de 20 minutes, celles qui ont eu droit à la durée qui était prévue, le MEDEF, la CFTC et l'UNSA. Et puis, il y a eu donc la CFDT qui a eu droit à une rallonge d'une demi-heure. Laurent Berger, vous l'avez entendu, est sorti juste avant le début de ce journal. Et je vous résume en trois phrases son propos. La CFDT est déterminée à soutenir le système universel par points, mais elle est aussi déterminée à combattre l'âge d'équilibre à 64 ans que veut instaurer le gouvernement. Y a-t-il eu des ouvertures du Premier ministre, lui a-t-on demandé, vous l'avez entendu. Eh bien oui, a-t-il répondu. Des signes d'ouverture, il y en a eu, mais il est encore très prématuré, très 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 prématuré, a-t-il dit, de parler d'une possibilité de compromis.
Olivier Samin en direct depuis Matignon.
Et Laurent Berger qui sera l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1 demain matin à 8h15. Il répondra à Sonia Babrouk et Mathieu Béliard.
Tous les syndicats défilent donc aujourd'hui à Matignon. Tout à l'heure, le leader de la CGT, lui, s'est montré inflexible. Retrait de la réforme ou rien, on n'a pas changé de ligne, a dit Philippe Martinez.
Et Emmanuel Macron a lancé quand même des signaux aujourd'hui. C'était en amont de ses concertations par la voix de ses conseillers. Il n'abandonnera pas, ne dénaturera pas le projet.
La fermeté mais l'ouverture. Le président se dit disposé à améliorer le projet, notamment sur cette question donc de l'âge pivot. Il se donne pour objectif d'obtenir une pause de la grève pour les fêtes.
En attendant, et bien sûr le terrain, c'est toujours la cohue dans les gares et la panique pour ceux qui tentent de changer leur billet, de trouver un siège dans un train qui circulera pour Noël. Écoutez ce témoignage recueilli gare Saint-Lazare.
Sur le site internet, c'était marqué annulé, annulé, annulé. Donc je ne suis pas partie hier. Ben, ça me gâche un peu mes vacances avec les enfants et petits-enfants.
J'ai essayé de procéder à l'échange sur internet, mais c'était impossible. Donc du coup, j'ai appelé le 36-35 hier. J'ai laissé sonner pendant 3 heures. J'ai réussi ce matin pendant une heure, ça n'a pas marché. Et maintenant, je viens à la gare Saint-Lazare pour essayer de procéder à l'échange.
Si c'est annulé, qu'ils me mettent sur un autre train. Parce que je n'ai pas d'autre solution. Je n'arrive pas à trouver de blabla. J'ai pas d'autre solution.
Témoignage recueilli gare Saint-Lazare par Sadia Sissaïd. Je vous donne les prévisions pour demain. 15e jour de grève dans les transports. Trafic qui s'améliore légèrement avec 2 TGV sur 5, 4 TER sur 10. En Ile-de-France, toujours un quart des Transiliens et à la RATP, 6 lignes de métro fermées.
Et on a appris cet après-midi que la justice a été saisie contre l'ex-monsieur de retraite, hein, Jean-Paul Delevoye.
Oui, saisine déclenchée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique contre l'ancien haut-commissaire en retraite qui n'avait pas déclaré plusieurs de ses activités. Son successeur, Laurent Pietraszewski, lui a succédé aujourd'hui.
Les Balkany renoncent. Ils ne seront pas candidats à Levallois-Perret.
Bonsoir Marion Dubreuil.
Bonsoir.
C'est ce que dit leur entourage. Le maire et son épouse prennent les devants, en fait, parce que cette fois, ils sont exposés à des peines encore plus sévère à leur procès en appel pour fraude fiscale.
Oui, c'est sans doute les réquisitions ce matin du parquet général qui ont eu raison des ambitions politiques du maire de Levallois qui est à bout, hein, selon son entourage. En plus de tout le reste, la prison, l'état de santé et l'âge, 71 ans tout de même, l'avocate générale a été plus sévère que le parquet national financier en première instance. Pas sur la prison, elle a requis la même peine, 4 ans ferme avec mandat de dépôt, mais sur l'inéligibilité. Elle a ajouté la mention à exécution provisoire. Cela veut dire que si la cour d'appel suit ses réquisitions le 4 mars prochain, les époux Balkany seront contraints de démissionner immédiatement de la mairie de Levallois et ils n'auront pas le droit de se présenter au municipal à 11 jours seulement du premier tour, le tout sans recours possible. Patrick Balkany a donc décidé de devancer une décision de justice qui aurait pu signer, selon la formule de son avocat, sa mort sociale.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Le Parlement a adopté définitivement ce soir le bracelet anti-rapprochement. Cette mesure destinée à éloigner les maris violents des femmes victimes de violences. Et puis tous les regards tournés vers les États-Unis. Ce soir, on attend un vote historique. Donald Trump sur le point de devenir le troisième président mis en accusation par le Congrès. Les débats ont commencé il y a deux ou trois heures. Ils vont durer encore tout au long de cette soirée. La Chambre des représentants qui a retenu deux chefs d'inculpation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.
On parle football maintenant. Ce soir, c'est la Coupe de la Ligue, huitième de finale.
Avec un premier match qui a débuté il y a quelques minutes. Lyon reçoit Toulouse. Maxime Choche, vous êtes au Parc OL.
Bonsoir à tous, 23e minute et déjà 2-0 pour Lyon face à Toulouse. Début de match idéal pour les Gones. Dès la deuxième minute, un but de Bertrand Traoré sur sa spéciale, on peut dire un crochet du gauche dans la surface. Imparable pour Goycochea, titularisé ce soir par Antoine Comboiré à la place de Baptiste René dans les buts toulousains. Et 17e minute, Gian Lucas, le milieu de terrain brésilien en manque de temps de jeu cette saison, a décroché une superbe frappe des 20 mètres. Ça fait donc 2-0 pour Lyon qui domine son sujet après 23 minutes ici au Parc OL.
Maxime Choche à Lyon en direct. Les autres matchs de la soirée à partir de 21h05. Le Mans PSG, Brest-Bordeaux, Nîmes-Saint-Etienne, Nantes-Strasbourg et Amiens-Rennes. On surveillera aussi en Espagne le Classico ce soir, Barça-Real Madrid. Match qui avait été reporté à cause des troubles à Barcelone et qui se jouera donc à 20h.
Merci Sébastien, retour de l'info avec vous, 19h30, Anissa, le vent souffle demain.
Oui, il souffle fort le vent demain, c'est le vent du sud qui souffle sur toute la France, personne ne sera épargné. Alors sur les Pyrénées, des rafales prévues jusqu'à 120 km/h demain, donc prudence dans le sud-ouest. Dans la vallée du Rhône, le massif central et le Languedoc-Roussillon, on attend même des rafales jusqu'à 90 km/h. Dans le ciel, les perturbations s'enchaînent. Elles arrivent par l'ouest, ces perturbations, avec demain sur tout le quart nord-ouest, beaucoup de nuages et de la pluie toute la journée. Dans le sud aussi, il pleut demain sur le pourtour méditerranéen, sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud et même la vallée du Rhône. Il pleut au moins le matin, plus légèrement l'après-midi et sur le reste du pays, du Pays Basque jusqu'à l'Alsace. Là, c'est un temps qui reste sec et qui sera très ensoleillé sur l'Alsace jusque sur les Alpes du Nord. Donc la façade est sera très ensoleillée demain. Les températures, eh bien, sont toujours un peu plus douces grâce à ce vent du sud, avec demain matin 4 à Chambéry, 7 à Lille, 9 à Lorient, 11 à Paris demain matin, 14 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fait doux, très doux même, 12 à Belfort, 14 à Rennes, 15 à Paris à quelques jours de Noël, 15 à Saint-Étienne, 18 à Montluçon et Marseille. Et Biarritz sera l'une des villes les plus chaudes avec 19 degrés demain après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec vous, Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
On ne va pas mentir à nos auditeurs, il y a beaucoup de circulation, ils ont pu le constater, ils sont certainement coincés dans les bouchons, tout comme votre invité.
Oui, Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. Alors on va parler des négociations avec les syndicats sur les retraites, elle devrait être là d'ici quelques minutes.
Voilà, on attend, on ne bouge pas, nous on est fidèles au poste, en attendant on va faire un tour vers demain. Eh oui.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant, restez avec nous avant 19h30 sur Europe 1. 19h12 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et on s'intéresse maintenant à ce qui va se passer demain.
Comme chaque soir, on a un coup d'avance sur Europe 1. Demain en France. Bonsoir Théophile Cossa.
Bonsoir Nathalie.
Vous nous emmenez ce soir du côté d'Amiens, où se tient demain devant le tribunal administratif, ce qui pourrait en fait être l'épilogue de l'affaire de la butte aux Zouaves. C'est très sérieux, hein, c'est un site historique, la butte aux Zouaves.
Oui Nathalie, c'est une affaire qui dure depuis près de 20 ans. Ça se passe dans l'Oise, sur un ancien champ de bataille de 14-18. C'est là que se trouve la butte aux Zouaves, appelée ainsi en mémoire d'une compagnie décimée et ensevelie, selon la légende, à cet endroit. Alors depuis un siècle, le lieu réunit les commémorations. Il est devenu le mémorial officiel des Zouaves. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une entreprise de traitement de déchets décide en 2002 d'installer une décharge à proximité. Un projet contrarié à l'époque par le préfet qui inscrit le lieu au monument historique, au motif qu'il abrite les dépouilles de centaines d'hommes.
Eh oui,
sauf que l'entreprise, qu'il a un peu mauvaise, se renseigne, fait des recours et demande des fouilles qui ne donnent rien. Pas de Zouaves sous la butte aux Zouaves. L'entreprise n'a plus qu'une idée en tête, faire retirer la butte des monuments historiques. Une question de principe, dit-elle. Mais pour le lieutenant-colonel Lemay, président de l'Union nationale des Zouaves, la présence ou non de corps ne change rien.
Ce qui est sûr, c'est qu'en 2002, en tout cas, la butte a été classée. Je pense que si les autorités de l'époque l'ont fait, ils l'ont fait en connaissance de cause. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des Zouaves enterrés sous la butte? Je ne peux pas le certifier. Il y a des monuments historiques en France où il n'y a pas de Zouaves enterrés dessous. Hein. Ce pourquoi les Zouaves sont présents sur ce dossier, c'est que c'est un lieu de mémoire pour nous, indépendamment du fait qu'il y ait ou non des Zouaves enterrés.
Alors demain, à la suite d'un énième recours, l'on devrait savoir si le tribunal administratif annule finalement ou non l'inscription de la butte aux oies aux monuments historiques. Si c'est le cas, l'entreprise de traitement de déchets pourra étendre son activité, rapprocher sa décharge du mémorial et enterrer peut-être aussi définitivement l'affaire de la butte aux oies.
La butte des oies sera-t-elle transformée en décharge ? Réponse demain. Merci Théo. Demain dans le monde, c'est avec vous Didier François chaque soir. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
C'est le nouveau président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, un ancien ministre de 74 ans qui doit prêter serment. Après la confirmation de sa victoire par la Cour constitutionnelle, officiellement 58% des voix obtenues dès le premier tour, mais avec une très faible participation, moins de 40% des électeurs qui ont fait le déplacement dans les urnes.
Oui, alors encore, ce sont des chiffres très optimistes si on se rapporte à ce qu'on a pu observer le jour des élections avec des bureaux de vote totalement déserts. Ce qui s'explique d'ailleurs assez simplement, Abdelmadjid Tebboune n'aura de président que le titre, le véritable pouvoir, tout le monde le sait, en Algérie, reste entre les mains du chef d'état-major des armées, le général Ahmed Gaïd Salah, qui tient très fermement les rênes du pays depuis qu'il a mis à l'écart son mentor, Abdelaziz Bouteflika, en avril dernier, sous la pression de la rue. Et l'élection de ce nouveau président n'y a rien changé. Abdelmadjid Tebboune est un pur produit du système, ministre et même premier ministre de son prédécesseur. Il a toujours été d'une extrême loyauté à son égard et d'une très grande docilité avec la haute hiérarchie militaire. Ce n'est pas de lui que l'on peut attendre une véritable velléité de réformer le régime.
Mais la rue ne s'y est pas trompée, hein. La contestation d'ailleurs, elle ne faiblit pas.
Et effectivement, les manifestants se sont encore rassemblés en masse hier pour dénoncer des élections truquées et pour réclamer la mise sur pied d'institutions de transition, le temps d'organiser un référendum constitutionnel. C'est la revendication essentielle depuis le début du mouvement de protestation en février dernier, la démocratisation du système politique algérien, ce dont les militaires ne veulent absolument pas entendre parler. Le bras de fer va donc se poursuivre, il va même certainement se durcir.
On va regarder évidemment la contestation, on regarde comment ça se passe avec vous en Algérie. Merci beaucoup Didier François. Thierry Dagiral, demain dans nos vies, c'est avec vous ce soir.
Bonsoir Nathalie.
On va être pratico-pratique, on aime ça, vous êtes parents, votre préado vous demande quoi ? Un smartphone pour Noël, je m'en étrangle. Seul souci, vous n'avez pas envie de lui laisser tel quel dans les mains.
Eh bien sachez qu'il existe des options de contrôle parental. Chez Apple par exemple, vous pouvez restreindre certaines recherches sur Internet ou interdire le téléchargement d'une poignée d'applications. Vous pouvez aussi contrôler le portable de votre enfant à distance en passant par le partage familial. Il ne s'agit pas d'un iPhone. Si jamais vous n'avez pas un iPhone, eh bien il est nécessaire alors de configurer le contrôle parental directement sur l'appareil de votre enfant.
Alors, on peut aussi limiter le temps d'utilisation, le temps d'écran autorisé par jour.
Exactement. Comment ça se passe sur Android ? Eh bien là, Google propose des solutions similaires via l'application Family Link. Mais contrairement à Apple, l'outil n'est pas inclus dans les réglages. Il faut donc télécharger l'application.
Ouais, mais ça, c'est quand même un souci pour les parents.
Exactement. Je vous conseille d'aller d'ailleurs sur le site e-enfance. C'est une association très sérieuse de protection de l'enfance agréée par le ministère de l'Éducation nationale qui dresse une liste de toutes les applications de contrôle parental, mais aussi un tableau comparatif de ces solutions basé sur le prix, le filtrage par âge et la difficulté de contournement.
Merci beaucoup.
Encore faut-il que les parents soient doués et arrivent à installer
exactement
tout ça.
Merci beaucoup Thierry, mais on a quand même quelques éléments grâce à vous. On va essayer de s'y pencher.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Aurore Berger est arrivée dans ce studio. Bienvenue à vous. Bonsoir Aurore Berger pour La République En Marche. Votre interview, c'est dans une seconde. Aurélie Herbemon, juste après ça.
Restez avec nous. Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, évidemment, on revient longuement ce soir sur les partenaires sociaux reçus par Edouard Philippe.
Oui, on est très très loin d'un accord pessimiste affiché par Laurent Berger tout à l'heure à la sortie d'une heure de négociation à Matignon. Divergence toujours très vive avec le Premier ministre sur la question de l'âge pivot. Écoutez le patron de la CFDT.
On a senti, je dois le dire, parce que ce serait injuste autrement, une volonté de discussion et d'ouverture, tant mieux. On pourra refaire un jour l'histoire pour savoir s'il aurait fallu le faire avant. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a une volonté d'ouverture. Mais on est très très loin encore d'être d'accord.
Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Bonsoir.
Très loin d'un accord, mais volonté d'ouverture. Là, il y a un entre-deux. Qu'est-ce qu'on retient ce soir de ce qu'a dit Laurent Berger ?
Alors déjà, on retient qu'il y a le mot ouverture. C'est-à-dire que c'est assez nouveau dans la bouche de Laurent Berger. Il faut se souvenir de sa sortie juste après le discours du Premier ministre la semaine dernière au CESE, hein, au Conseil économique et social et environnemental. Là, il avait dit les lignes rouges sont franchies. On avait l'impression que même les discussions ne pouvaient plus reprendre entre les différentes parties. Donc là, il y a des ouvertures. Alors quand il dit ouverture, qu'est-ce que ça peut être ces ouvertures ? Le point noir pour la CFDT, c'est ce qu'on appelle l'âge pivot. Je vous rappelle le principe, à partir de 2022, il va être fixé à 64 ans cet âge pivot. C'est-à-dire que pour avoir sa retraite à temps plein, il faudra travailler jusqu'à 64 ans. Ça permet quoi ? Ça permet de revenir à l'équilibre. C'est une pure mesure d'économie à revenir à l'équilibre en 2027 pour le régime des retraites. C'est une mesure totalement paramétrique. Comme on dit, ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Et c'est ça vraiment qui a fait voie rouge à Laurent Berger, le patron de la CFDT. Donc là, on discute véritablement sur une amélioration de cet âge pivot. Un ministre de premier plan me disait à la mi-journée, il faut que l'on trouve les moyens pour que la CFDT sorte digne de ce conflit et que nous, gouvernement, on sorte également digne de ce conflit. Alors comment on fait ? Eh bien, c'est vraiment la discussion du moment. Est-ce qu'on supprime totalement l'âge pivot ? C'est ce que souhaite Laurent Berger. Est-ce qu'on améliore cet âge pivot ? Comment on fait ? C'est-à-dire que, par exemple, en fonction de la pénibilité de tel ou tel métier, eh bien, l'âge pivot pourrait entrer en vigueur plus tard. Est-ce qu'on l'étale encore sur plus de temps ? Là, la réponse n'est pas encore là et c'est de ça dont ils vont discuter. Il faut voir qu'il y a eu un signe extrêmement important qui a été apporté à Laurent Berger ce soir, c'est la durée de la réunion. Logiquement, elle aurait dû durer 30-45 minutes. Celle de Philippe Martinez pour la CGT a duré 20 minutes à peine. Celle-ci, elle a duré environ une heure, donc un signe que l'on est entré dans le fond des choses. Demain, il y a une réunion multilatérale, c'est-à-dire que tous les syndicats vont être autour de la table. Et demain soir, du côté de l'exécutif, on espère avoir ce que l'on appelle une voie de passage qui commencerait à se dégager. C'est-à-dire que ce ne serait pas encore négocié, on n'aurait pas encore un oui total de la CFDT, de l'UNSA et de la CFTC, mais on aurait peut-être une sorte de... Oui, mais si vous faites un effort, on commence à trouver des éléments pour travailler ensemble.
Avec peut-être une pause pour les fêtes dans la balance, puisque c'est ce qu'évoquait aujourd'hui Emmanuel Macron, qui parlait, comme vous le disiez, de possibles améliorations sur cette question de l'âge pivot. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Laurent Berger qui sera là dans ce studio d'Europe 1 demain matin pour développer. Laurent Berger à 8h15, invité exceptionnel de la matinale. En revanche, le leader de la CGT, lui, ne bouge pas d'un iota, position inchangée. C'est retrait de la réforme ou rien. Écoutez Philippe Martinez.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il annonce à la CGT en exclusivité l'annonce du retrait du projet de loi. Il y a une multilatérale demain et peut-être qu'il y aura des annonces. Mais enfin, il ne faut plus traîner hein, parce que la situation est compliquée pour eux.
Voilà, Philippe Martinez qui était avec Olivier Samin. Demain, 15e jour de grève, 2 TGV prévus sur 5, 4 TER sur 10, 1 Transilien sur 4 et 6 lignes du métro parisien toujours fermées. Bison Futé s'attend, attention, à un week-end très très compliqué sur les routes. Samedi, orange au niveau national dans le sens des départs et dès vendredi en Ile-de-France, mieux vaut quitter les grandes villes entre 10h et 15h ou bien après 20h. À retenir dans l'actualité également ce soir, les époux Balkany sauront le 4 mars s'ils sont à nouveau condamnés pour fraude fiscale, mais ils prennent déjà les devants et jettent l'éponge. Ils ne seront pas candidat à leur réélection à Levallois. Mise en accusation imminente pour Donald Trump, débat en cours à la Chambre des représentants ce soir. Cette chambre qui devrait adopter l'inculpation du président américain. Ce serait la troisième de l'histoire. Et puis le foot, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. On suit ce soir Lyon qui domine Toulouse, 2-0. Ce soir 21h05, Le Mans PSG, Brest Bordeaux, Nîmes Saint-Etienne, Nantes Strasbourg et Amiens Rennes.
Merci beaucoup Sébastien, toutes ces informations avec vous. Et du côté du ciel, des informations aussi qui sont du vent, de la pluie et des températures douces demain.
Exactement, vous avez bien résumé la journée de demain, Nathalie Lévy. Le vent du sud va souffler fort sur toute la France. Personne n'est épargné hein, demain avec ce vent du sud qui souffle même dans les terres. Alors en Bourgogne, 50 km/h, sur la vallée du Rhône, 80 km/h, sur le massif central, on attend des rafales à 90 km/h. Prudence dans ce secteur, mais là où le vent du sud va souffler le plus fort demain, c'est sur les Pyrénées, jusqu'à 120 km/h. Évidemment, il souffle dans les terres, il souffle également sur les côtes, côte méditerranéenne, côte atlantique, côte de la Manche, côte de la mer du Nord. Il y a du vent partout demain. Dans le ciel, les perturbations, elles s'enchaînent, elles arrivent toutes par l'ouest, à la queue leu finalement. À chaque jour, une nouvelle perturbation avec demain sur tout le quart nord-ouest, beaucoup de nuages et de la pluie sur la Bretagne, la Normandie, le Nord, les Pays de la Loire, le centre Val de Loire et un tout petit peu en début de journée la région parisienne. Dans le sud-est aussi,
Sur le pourtour méditerranéen, les Pyrénées, les Alpes du Sud et la vallée du Rhône, il va pleuvoir demain sur le reste du pays. Du Pays Basque jusqu'à l'Alsace et le long des frontières de l'Est, et bien là c'est un temps assez ensoleillé avec quelques nuages légers dans la journée. Alors les températures, Nathalie, avec ce vent du Sud qui souffle sur le pays, bien ces températures, elles continuent de grimper. Et elles sont vraiment très douces, bien au-dessus des normales de saison. 4 degrés demain matin à Chambéry, 7 à Lille, 9 pour Lorient, 11 à Paris, là je vous parle du matin. Hein. 11 à Paris, 14 pour Marseille le 19 décembre.
Ouais, on n'aime pas ça.
Au meilleur de la journée, non, c'est vraiment très doux. 12 pour Belfort, 14 à Rennes, 15 à Paris et Saint-Etienne demain après-midi, 18 à Montluçon et Marseille. Et Biarritz, comme Pau et comme Ajaccio, feront partie des villes les plus chaudes de demain avec 19 degrés.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Et la suite du programme, Nathalie ?
Si je vous dis qu'il y a des bouchons, vous me croyez
oui,
ou pas ?
Bah oui, je crois.
Si je vous dis que ça perturbe évidemment l'arrivée de nos invités, vous me croyez aussi ? Parce que vous l'avez vécu avec Aurore Berger tout à l'heure pour La République En Marche. Et on le revit là ce soir avec Stéphane Guillon, l'humoriste, bien sûr. Il n'est pas loin, il va arriver dans ce studio. On va l'attendre, évidemment, patiemment.
Restez avec nous sur Europe 1 et pour poser vos questions à Stéphane Guillon, ça se passe aussi sur Twitter, hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, jusqu'à 20h, place à la culture.
Avec Stéphane Guillon qui est avec nous ce soir, mais par téléphone. Bonsoir Stéphane Guillon, est-ce que vous m'entendez ?
Mais écoutez, plutôt pas mal.
Bon,
plutôt
ça c'est déjà un bon point. Alors Stéphane Guillon, on va tous dire, vous êtes coincé dans Paris, dans les embouteillages, c'est ça ? Faites donc un point route
passer,
alors qu'il est...
On a essayé de passer en moto, mais même à l'opéra, ça ne passait pas. Quoi.
Voilà, même vous, ça ne passait pas. Bon, Stéphane Guillon, prolongation aussi sur la route, c'est le nom de votre spectacle au théâtre Tristan Bernard à Paris jusqu'au 28 décembre, à Nantes le 12 janvier, à Biarritz le 30 janvier par exemple. Stéphane Guillon, maintenant que vous êtes là, en plein cœur des bouchons, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme des retraites ? Vous pouvez nous dire toute la vérité, rien que la vérité.
Bah, écoutez, ce que j'en pense, du bien, du mal, je suis partagé, je comprends rien à cette réforme, mais j'ai l'impression que personne ne comprend rien. Donc voilà, ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il y a des symboles aussi qui sont importants et que quand le budget de l'Élysée est augmenté de 2 millions d'euros cette année... On peut comprendre que des gens n'aient pas envie de se serrer la ceinture. Je veux dire qu'à partir du moment où nos dirigeants ne montrent pas l'exemple, où Monsieur Macron fait venir des pièces de théâtre régulièrement à l'Élysée, des compagnies entières pour son bon plaisir, tel le roi Soleil. Effectivement, dans cette république monarchique, c'est très compliqué après de demander aux gens de faire des efforts. Voilà ce que je pense réellement.
Vous vous en servez en ce moment, là, sur scène, de cette mobilisation, de ces grèves monstres, de ce que ça génère aussi comme crispation chez les Français
C'est-à-dire, si vous voulez, moi, j'avais la chance d'être complet il y a encore 15 jours. Ouais. Et comme je me produis tout seul et que je suis une petite structure, je m'étais battu pendant des mois pour remplir ma salle et j'y étais enfin arrivé. Et là, donc, c'est beaucoup plus calme. Il y a une centaine d'irréductibles qui peuplent la salle. Mais je dois dire que du coup, le spectacle prend une tournure beaucoup plus politique et qu'on s'amuse.
Vous ne jouez pas à guichet fermé, comme on dit en ce moment, à cause de ces mouvements.
Chère Nathalie, je vous confirme que plus personne ne joue à guichet fermé. Et encore, moi, je m'en sors bien. Je sais qu'il y a certains de mes camarades qui jouent avec un rang d'orchestre.
Ah, ouais. Qu'est-ce que vous faites, du coup ? Vous êtes sur ce territoire-là, des retraites, de la mobilisation, et vous digressez, j'allais dire, avec le public, en bonne intelligence et même en grande complicité ?
C'est-à-dire que, souvenez-vous qu'Emmanuel Macron, quand il était candidat à la présidence de la République, il nous avait dit qu'il n'y aurait plus de droite, plus de gauche, qu'il n'y aurait plus de République des copains, de prébendes, etc., que la France-Afrique, la politique à la papa, c'était terminé. Et donc, on s'était réunis, je me souviens, avec Nicolas Canteloup, Laurent Gérard, Christophe Lévesque, Didier Porte, quelques-uns, et on s'est dit qu'on allait être au chômage, finalement. Et puis, très vite, au bout de 2-3 jours, on s'est rendu compte que, finalement, Emmanuel Macron donnait énormément de travail, donc on rebosse beaucoup grâce à lui.
Vous rebossez beaucoup grâce à lui. Vous avez même... on va vous entendre quand même sur scène, j'aimerais bien, parce que je sais que vous avez une espèce de top 3, en fait, des politiques. Enfin, vous allez me le dire dans un instant. Mais en tout cas, j'aime bien quand vous êtes là sur les inconnus de ce gouvernement, par exemple, mais pas seulement.
Marseille, ils veulent de nouveau virer Castaner. Soi-disant, le type est nul, incompétent. Touchez pas à Castaner. Pour nous, les humoristes, c'est le Graal. Tu cites son nom dans une salle, les gens rient. Christine Boutin est à la retraite, Vauquier a été viré, Balkany est en prison. Non, laissez-nous nos meilleurs clients. C'est vrai qu'il est nul. En premier flic de France, il est nul. Mais pour mettre de l'ambiance dans les dîners officiels, c'est le meilleur. Coussin péteur, boîte à rire, poil à gratter, c'est Castaner la déconne.
Stéphane Guillon. Bon, on a compris, Castaner, il arrive sur la première marche du podium. Qui a d'autre dans votre top 3 au gouvernement aujourd'hui? Ou d'ailleurs hors gouvernement?
Oh, mais ils sont pas mal à se battre. Il y a Agnès Buzyn, il y a
la ministre de la Santé,
porte-parole du gouvernement. Il y a évidemment Castaner, il y a Macron, il y a Brigitte.
Tous sont croqués et ouais, moqués dans votre spectacle.
J'essaie de faire plaisir à tout le monde.
Vous êtes évidemment, j'allais dire, très inspiré par le gouvernement. Qui d'autre aujourd'hui surnage? Il n'y a que le gouvernement qu'on croque en spectacle, qu'on imite, qu'on... Dans le personnel politique, bien sûr.
Non, ils sont assez... ils ne m'inspirent pas beaucoup au niveau imitation. Moi, niveau imitation, c'est vrai que j'imite François Hollande, qui revient d'ailleurs, qui était ce matin chez vos confrères d'Inter. Pour nous expliquer à quel point lui, il aurait mieux fait que les autres. Et d'ailleurs, Hollande, il me stupéfait parce qu'il est en train de revenir un peu partout en ce moment. Et je me dis que finalement, la politique, c'est le seul métier au monde où tu peux merder autant et on te file une deuxième chance. Il n'y a pas d'équivalent. Par exemple, le capitaine du Costa Concordia, il n'organise plus de croisière.
Ah, bien sûr, oui. Bien vu, bien vu. Quand même, dites-moi, Stéphane Guillon, sur scène, il y a une table haute, une carafe d'eau, quelques ballons de toutes les couleurs et cette inscription « Premiers adieux ». Vous commencez en disant qu'il faut vous arrêter, car c'est trop difficile de faire rire aujourd'hui. C'est vraiment vrai, ça?
Non, c'est une boutade. C'est-à-dire que je passe en revue tous les sujets qui sont touchy maintenant, tout ce dont on ne peut plus parler, dont on ne peut plus rire. Et évidemment, je m'empresse d'en rire.
Ouais. Vous allez
un spectacle qui est monté comme ça en contre-pied permanent.
Vous allez sur tous les terrains. On avait Haroun hier dans ce studio. Il nous disait on peut rire de tout en toutes circonstances, mais en étant respectueux. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Oui, enfin, moi je pense qu'un humoriste n'est pas un citoyen au-dessus des autres. Donc effectivement, mais ça paraît évident et bête à dire, on n'a pas le droit d'injurier, on n'a pas le droit de tenir des propos racistes et antisémites, c'est évident. On a quand même le droit à l'outrance, et je crois que ça, c'est important. On a le droit d'être outrancier, nous ne sommes pas des journalistes.
On a évidemment des auditeurs aussi qui vous posent des questions. Agathe, qui nous appelle de Nantes ce soir, toute jeune Agathe, 19 ans, bonsoir à vous.
Ça va, bonsoir. Bonsoir Nathalie, bonsoir Stéphane Guillon.
Quelle chance de vivre à Nantes, Agathe. Vous ne connaissez pas votre bonheur?
Ah ben si, je connais
ça. Savourez.
Jolie ville.
Alors allez-y, oui. Agathe.
Alors, je voulais savoir si vous, Stéphane Guillon, vous avez le sentiment d'avoir inspiré des humoristes de la nouvelle génération et savoir si vous en appréciez en particulier.
Moi, j'en apprécie pas mal, mais ouais, j'en apprécie beaucoup. J'aime beaucoup Jérôme Commandeur, j'aime Gaspard Proust, il y en a plein. Et puis, c'est aussi que malheureusement, dont je ne connais pas le travail. Mais moi, quand j'ai commencé dans les années 90, en 90, on était 15 humoristes. Et maintenant, il y en a énormément. Donc, je trouve ça bien, finalement, qu'il y ait autant de gens qui s'expriment sur scène. Et je trouve qu'il y en a qui ont beaucoup de talent. Et si j'en ai inspiré certains, tant mieux.
Juste un dernier mot, Stéphane Guillon, parce que vous êtes dans la circulation, c'est compliqué pour vous. Vous terminez votre spectacle en disant « On m'a viré de partout, gardez-moi avec vous ». Ça vous manque, la télé, la radio aujourd'hui? Vous lancez une sorte d'appel?
La télé, pour rien au monde, vous mettez n'importe quel chèque sur la table, je n'y vais pas. Mais la radio, j'ai toujours dit que j'aimerais refaire de la radio. Ah. Mais ça viendra un jour, vous savez, moi je suis pas pressé. Quand les choses se présentent, c'est chouette.
Bon, on a entendu en tout cas. Alors Stéphane Guillon, en attendant, vous êtes au théâtre Tristan Bernard à Paris jusqu'au 28 décembre. Le nom du spectacle, c'est Prolongation, à Nantes le 12 janvier, à Biarritz le 30 janvier, entre autres. On espère que vous allez arriver à bon port.
Salut Stéphane Guillon, merci d'avoir été avec
désolé
nous
d'être
en direct.
Resté bloqué, voilà.
Mais merci
désolé,
d'avoir
merci
joué
beaucoup.
Le jeu, merci à vous.
Merci, salut.
Et votre grand journal se poursuit, Nathalie Lévy, avec encore de la culture.
Oui, Mathieu Charrier est avec nous dans un instant. Mathieu Charrier avec des cadeaux.
Oui, ah, des DVD, il faut faire les cadeaux là. Hein. Des cadeaux pieds du sapin. Quelques jours, alors on va donner 2-3 conseils DVD.
Notre Père Noël, Mathieu Charrier, là en studio. Vous pouvez nous suivre sur Europe1.fr. Restez avec nous, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est la culture au sens large. Dans un instant, on va parler cinéma et idées cadeaux avec notre Père Noël maison Mathieu Charrier qui est les bras chargés de cadeaux. Et il nous donne tout, c'est sympa Mathieu, merci beaucoup. Mais juste avant ça, c'est la playlist du 18-20. Qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir
Nathalie ? C'est très bon, c'est du Elton John, Rocketman.
Chouette. On adore Elton John. On écoute
c'est
tout
génial.
Ou pas? Ouais, on le laisse.
On laisse la place à Mathieu Charrier parce qu'il est là.
Laissez derrière et... si vous voulez.
Rocketman, titre du biopic sorti cette année à l'occasion de sa tournée d'adieu. Sir Elton John donnera plusieurs concerts en France, dont deux prévus à l'Accor Hotel Arena les 10 et 11 octobre 2020.
Ah, pour mon anniversaire.
Bon,
parfait,
voilà,
parfait, pour Mathieu Charrier, je vous le dis comme ça.
Vous allez vraiment tout me prendre.
Bon, Mathieu Charrier, oui. Dites-nous tout.
Il paraît qu'il faut que je vienne vous donner 2-3 idées.
5 DVD, 5
montres. Parce que vous savez, les amis, on n'offre plus beaucoup de DVD, sauf pendant les fêtes. Il y a des études qui prouvent que pendant les fêtes, les gens continuent à aller à la Fnac, chez Cultura.
Parce qu'il y a des coffrets, non ?
Parce qu'il y a des beaux coffrets, que ça coûte 20-30 euros. Donc, c'est un joli cadeau qui nous ruine pas et qui fait plaisir. Donc, à Noël, les coffrets DVD continuent de se vendre. Donc, quelques conseils. Le premier, hop, je le tourne vers vous. Bohemian Rhapsody, est-ce que vous l'avez vu, ce film consacré au groupe Queen ? Vous l'avez vu ou pas ?
Non. Mais c'est l'occasion de me rattraper si vous me
prie. Je vous en prie. Allez, elle commence déjà à vouloir me le raqueter. Freddie Mercury, campé par l'incroyable Rami Malek, ça a cartonné le film. Il y a eu des critiques plutôt mitigées. Moi, je faisais partie de ceux qui défendaient plutôt le film. Ça a cartonné en salle, plusieurs millions d'entrées rien qu'en France.
Ah, pour le coup, moi, j'ai préféré Rocketman à.
Ça ne m'étonne pas de vous. Et donc, là, il sort en DVD. Ils ont eu l'intelligence de le mettre avec Walk the Line, qui avait offert un Oscar à Reese Witherspoon, qui là revenait sur l'incroyable carrière de Johnny Cash, qui était sorti de sa campagne, etc. Donc voilà, c'est un film pour ceux qui aiment bien.
La musique, les groupes de rock.
Un coffret pour ceux qui aiment bien les films musicaux. Voilà. Moi, je dis banco, il y a les deux films dedans. Ensuite, j'ai pensé à Anissa, qui est toujours amoureuse de Guillaume Canet.
Absolument.
Voilà. Coffret, les petits mouchoirs, nous finirons ensemble.
Ah ouais, très bien.
Vous savez, alors, il fait froid. C'est les fêtes, il pleut, il fait froid, machin.
Vous voulez dire un plaid avec un chocolat chaud.
Mais c'est très inégal quand même. Hein. Les petits mouchoirs, nous finirons ensemble. C'est bien de les mettre dans le coffret.
Vous avez
mais...
qu'à me piquer mon boulot aussi.
Pardon.
Bon, moi je trouve
j'ai adoré les petits mouchoirs.
Et vous avez
le premier
moins aimé
est mieux
les...
que le deuxième.
Moi je trouve que les deux se complètent bien. C'est du Guillaume Canet. Il y a des qualités et des défauts. Mais en tout cas, un petit coffret
bourré. Très bonne idée ça.
Très bonne idée.
Et la BO des petits mouchoirs était extraordinaire.
Des deux. C'est Guillaume Canet à chaque fois qui compose, qui va chercher les titres dans sa.
Avec Yodelis aussi beaucoup.
Ouais. Ensuite, une petite série.
Ah génial.
Ah, The Crown.
The Crown.
J'ai pas la télé, je regarde pas les séries, mais celle-là, incontournable.
Ça commence bien. Incontournable sur la reine d'Angleterre dans les années 60, histoire de la couronne britannique. Oui, c'est ça, Depuis tout à l'heure en antenne pendant la pub, tu me les donneras les DVD, et puis en fait, elle n'a même pas de quoi les voir. Bon, sincèrement, c'est une des meilleures séries de l'année. Il y a déjà deux saisons. Là aussi, si vous n'êtes pas abonné, je crois que c'est sur Netflix que ça passe. Si vous n'êtes pas abonné, hop, un petit coffret DVD, une vingtaine d'euros, et vous regardez The Crown pendant. Toutes les vacances.
Ensuite. Et Vincent Thévenet, notre réalisateur préféré, nous dit, il nous souffle. On voulait de l'humour, on a Mathieu Charrier. Effectivement, je ne peux pas le garder pour moi. C'est effectivement.
Il va venir tous les soirs.
Voilà, Mathieu c'est ça pour la spéciale humour. Ensuite, je continue parce qu'on a des petits-enfants quand même, tous.
Oui, bien sûr.
Le meilleur de Blue Sky. On parle beaucoup des Disney, des Pixar. Effectivement, il y a des coffrets, c'est formidable. Mais il y a aussi Blue Sky qui fait des très bons films. Là, si je vous dis L'Âge de Glace, si je vous dis Rio, si je vous dis Epic, Ferdinand, tout ça.
Je connais Ferdinand, extraordinaire.
Voilà, vous connaissez Ferdinand, ça ne m'étonne pas de vous. Là aussi, hop, un coffret. Ensuite, regardez, essayez de tous pour les piquer.
Si vous regardez
ensuite,
sur internet, il me le
deux
prend.
Deux coffrets pour terminer,
pas, hein.
Parce qu'en région, on me dit faut aller vite. Un coffret Almodovar, ça c'est formidable. Avec Volver, Tout sur ma mère et Douleur et gloire, les trois meilleurs Almodovar.
Du classique,
ça vous êtes sûr de faire plaisir à la belle-mère, à qui vous voulez. Et enfin, mon coffret, moi, que j'aime beaucoup.
Ah, c'est celui-là que je veux, moi.
Le cinéma... Oui, mais il est pour ma femme, celui-là. Le cinéma au féminin, avec ses films portés par de magnifiques personnages féminins. Erin Brockovich, Manche Pris M, là encore, c'était avec Julia Roberts. Oui. Meryl Streep, qui faisait jouer dans Julie et Julia. Nuit Blanche à Seattle, belle comédie romantique avec Tom Hanks.
C'est que de l'international ?
C'est que de l'international. Ça coûte pareil, 30 euros, il y a 10 films, c'est quand même des beaux
30
coffrets.
30 euros ?
Oui,
ça, c'est
je
très
vous
beau.
Le dis, madame.
C'est 3 euros le film,
je
c'est
vous
pas
mets 10
cher.
Films pour 30 euros. Et donc, ça s'appelle Le cinéma au féminin.
C'est très chouette.
Voilà,
c'est
messieurs, dames.
Des valeurs sûres, des valeurs sûres. Très bon choix de Mathieu Charrier à droite. On le garde.
Ne sortez pas de ce studio. On va vous raqueter.
Merci Mathieu Charrier. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait quelques heures sup pour nous. Émilie Mazoyer, est-ce que vous avez réussi à arriver au micro? Oui,
mais oui,
oui,
bien
oui,
sûr.
Là,
j'ai
vous.
Adoré la micro-critique de Mathieu Charrier sur Johnny Cash, le mec qui est sorti de sa campagne.
Bah oui.
Le mec a sauvé le rock.
Est-ce que c'est fou? Est-ce qu'il sortait pas de sa
c'est
campagne?
C'est The Battle, là. Attention,
rock,
The Battle. Mais c'est vrai que le film est canon, c'est et c'est une bonne idée d'en reparler. Voilà. Alors, merci, ça m'a fait plaisir. Alors nous, ce soir, on va parler de la Motown. Alors, pareil, j'ai sorti de leur campagne.
Oh là
vous
là.
Savez que la Motown, donc label culte, qui a notamment découvert Michael Jackson et Jackson 5, va fêter ses 60 ans cette année. Et il y a en France un spécialiste de musique qui s'appelle Uncle O et à qui on a demandé de faire une compilation de titres pas connus mais formidables de la Motown.
Génial.
Ça s'appelle Shaolin Soul Plays Motown. Par exemple, est-ce que vous connaissez cette chanson de Michael ?
Oh, on la laisse jusqu'au bout.
C'est... Ah, c'est...
Alors, plus tard,
c'est collector.
L'émission.
Voilà, là, Michael, il a 14 ans et ça fait partie des titres donc, qui sont sur cette compilation géniale. Uncle O, donc, qui a choisi les titres de la compile, sera avec nous dans une petite demi-heure.
Alors, moi, je réserve cette compile. Nathalie, arrête tes DVD, moi, je réserve la compile.
Allez, merci beaucoup, Émilie. Merci, Mathieu Charrier. Merci à toute l'équipe avec une bise particulière à Stéphanie B ce soir. Et puis, nous, on se dit quoi ? 18h20, on sera là ?
Demain.
18h20. Assurément, qu'il y ait des bouchons ou pas, nous serons là pour vous informer, pour vous faire sourire sur Europe 1, pour écouter tous ensemble le monde changer.
À demain, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1.
Europe 1.